Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette deuxième série concernant le Saint-Esprit, un thème des plus importants pour la fin de notre dispensation. Nous arrivons à l'étude numéro 8. Mais avant de la commencer, j'aimerais vous donner quelques perles pour votre route d'aujourd'hui. Il est dit dans Romains chapitre 12, au verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. » Vous avez à votre disposition des armes toujours suffisantes pour faire triompher le bien. Toutefois, les utilisez-vous? Je vous le demande. Quelles que soient les formes que le mal puisse revêtir, si résolument vous lui faites face en vous réclamant de l'Esprit Saint de Jésus-Christ, il ne peut que se sauver tout penaud. Le mal est incapable de regarder en face le bien. Ne cessez donc jamais d'affirmer que le bien l'emporte sur le mal et relevez toujours le défi que ce dernier vous jette. Pour les disciples de Jésus-Christ, il n'y a pas ici-bas d'armistice spirituel. Par ailleurs, n'oubliez pas que le mal ne vous guettera jamais pour vous faire tomber là où vous êtes le plus fort, mais bien là où vous êtes vulnérable. Il faut donc vaincre réellement. De là pour vous la nécessité de reconnaître vos défaillances et de réagir aussitôt jusqu'à la victoire. Demeurez bien calme en la présence du Seigneur. Beaucoup trop souvent, quand surgit une crise, on s'agite, on court de côté et d'autre. Cette agitation est un signe de faiblesse. On ferait preuve de force, au contraire, en se recueillant, je répète, on devrait faire preuve de force, bien au contraire, en se recueillant. Quelques initiatives prises calmement sous l'inspiration de l'Esprit-Saint vous feraient agir avec à propos, judicieusement, et cela bien mieux et plus efficacement que tous les efforts de ceux qui court et qui s'agite. Il s'agit en effet d'être réellement guidé, conduit, maintenu dans le chemin qu'il convient de suivre. Croyez donc fermement à cette possibilité. C'est très doucement que se fait entendre dans le tumulte de l'existence la voix discrète qui commande aux éléments et qui dit « Silence, tais-toi !» Mais alors, les vagues de vos tempêtes intérieures, elles devront obéir, elles s'abaisseront et un grand calme se fera. Oui, car alors, on commence à discerner la voix douce et ferme qui indique ce qu'il y a lieu de faire. Chers amis, l'étude numéro 8, eh bien, cette étude elle concerne la parole de connaissance pour aujourd'hui. La parole de connaissance. Il est dit qu'à un autre, il est donné une parole de connaissance selon le même esprit. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Je souhaite, est-il dit, par l'apôtre Paul, je souhaite tout particulièrement dire qu'il est clair que j'ai accueilli des interprétations qui diffèrent des miennes, et je le dis aussi pour moi, pas seulement l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre, et cela à propos de la parole de sagesse et de la parole de connaissance. Nous connaissons tous encore en partie, c'est ce qui nous est dit, et avec une sincère humilité d'esprit, alors là, nous pouvons accorder de la place à tout rayon de lumière qui semble provenir de la sainte parole de Dieu, même, oh oui, même lorsque, pour le moment, nous trouvons qu'il est difficile de le rattacher à nos propres convictions, car ceux qui ont des opinions différentes des miennes et qui les enseignent sur ces sujets feront toujours partie de mes amis, mais pourquoi pas? Ils font partie de mes frères et sœurs, ils sont sincères en Christ. Et nous pouvons être différents, hein, ça peut arriver, car nous ne sommes pas des clones ou des robots. Nous pouvons être différents sans que notre relation personnelle en souffre, car tout ce que je désire de dire maintenant est dépourvu de tout sentiment de critique. Vous pouvez me croire, à l'exception du désir de la vérité, car je suis conscient que mes connaissances sont limitées. Oh, j'en suis bien conscient. Et peut-être un frère qui a une autre approche de ce domaine que nous allons traiter, eh bien, il a peut-être raison. Ça ne veut pas dire que nous devons être ennemis pour cela. Bien sûr que non. Donc, je voudrais peut-être répéter ce que je viens de dire pour que on puisse bien comprendre que même si nous sommes différents, comme les feuilles d'un arbre sont différentes. Donc, ceux qui ont des opinions différentes des miennes et qui les enseignent sur ces sujets, croyez-moi, ils feront toujours partie de mes amis et de mes frères les plus sincères en Christ. Et nous pouvons être différents, mais sans que notre relation personnelle en souffre. Car tout ce que je désire de dire maintenant est absolument, vous pouvez me croire, dépourvu de tout sentiment de critique à l'exception du désir de la vérité. Je ne contiens pas toute la vérité, c'est impossible, car je suis très conscient que mes connaissances sont carrément, disons-le, très limité, n'ayant pas honte, et je n'ai pas honte de l'avouer. Les différences entre les exposés pentecôtistes des dons de l'Esprit-Saint se réunissent pour la plupart autour de la sainte parole de sagesse et de la parole de connaissance. Ce sont les deux dons que l'apôtre Paul place en tête de liste en 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. C'est donc là que nous pouvons avoir des petites différences. Ce qui ne veut pas dire que pour autant nous ne sommes pas des enfants sincères qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Car il y a des tas de sujets tels que le salut, le pardon de nos péchés que nous devons demander, qui sont absolument essentiels. Mais revenons à notre étude. Je me limiterai pour ma part à la parole de connaissance. Pourquoi ? Parce que les principes que je tiens pour être vrais dans la définition de ce don couvrent, il me semble, suffisamment et également la parole de sagesse, bien que les deux dons soient, bien évidemment, assez différents. Ils sont différents dans le sens où toute sagesse et toute connaissance sont différentes, ni plus, ni moins. Alors à mon avis, et je ne dis pas que j'ai raison, à mon avis, la parole de connaissance est un don d'enseignement dans l'Église. Je présente donc trois raisons pour appuyer cette conviction. Regardons cela de plus près. Premièrement, le contexte exige une telle définition du don et c'est un axiome d'interprétation valable des Saintes Écritures de dire que tout texte devrait être compris à la lumière de son contexte. Je répète que tous les textes devraient être compris à la lumière de leur contexte. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Là, l'apôtre traite des dons spirituels dans l'Église et il les compare dans son célèbre portrait aux membres d'un corps. Comme ceci, le problème, il me semble, il est ainsi réglé. Nous examinons la parole de connaissance comme étant l'un des dons de l'Esprit-Saint opérant en étroite relation avec les autres membres du corps de Christ. Mais de plus, dans ces chapitres, l'apôtre écrit en particulier à propos des rencontres de l'Assemblée lorsque toute l'Église se réunit. Ceci comprend bien plus que simplement la communion spirituelle des membres du corps de Christ, les uns avec les autres, dans la sphère personnelle. Tout ceci, au contraire, entre, il me semble, dans la sphère publique. Alors, quelle que soit la place que certains de ces dons, notamment les langues, puissent avoir dans la piété et l'édification privée, l'apôtre dans ces chapitres souligne très clairement leur fonction en relation avec d'autres dans une assemblée, une église. Toute définition correcte de la parole de connaissance doit donc se conformer au contexte. Elle est évidemment un don qui tient une place de très grand honneur. Saint Paul la place en haut de la liste. Elle doit être utilisée lorsque l'Église se réunit et toutes choses doivent être pour l'édification. Parmi les canaux suggérés pour une telle édification, nous trouvons celui de la doctrine. 1 Corinthiens chapitre 12, verset... Et, non, 1 Corinthiens chapitre 12, ainsi que le chapitre 14, verset 26. Ne nous trompons pas, je le dis pour moi. Donc si la doctrine, qui est un ministère d'enseignement, est rattachée à tout autre don de l'Esprit Saint tel que nous les trouvons en 1 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 10, ce sera soit la parole de sagesse, soit la parole de connaissance, et plus probablement cette dernière. Elle doit être clairement distinguée de la prophétie qui comporte une révélation. Chapitre 14, verset 30. Toutes les conditions du contexte sont donc remplies lorsque nous définissons la parole de connaissance comme étant un don d'enseignement dans l'Église. Deuxièmement, ma seconde raison, elle est fondée sur la simple description de ce don. C'est tout simplement une parole de connaissance. Et il me semble ni plus ni moins. Ainsi, tous les enseignants sont des hommes et des femmes ayant des paroles de connaissance, et cela dans le sens large et admis du terme. Un enseignant ne peut enseigner que ce qu'il connaît, et vice-versa. La détention de la connaissance met donc un homme ou une femme en position où il ou elle peut enseigner d'autres hommes et femmes. Bien qu'il soit un homme apte à enseigner, pourtant il ne peut le faire que d'après la matière qu'il possède sous forme de connaissance. Je ne peux pas enseigner quelque chose que je ne connais pas. Je répète bien entendu, et je n'ai pas peur de le dire, mes connaissances sont limitées et je peux me tromper. Et c'est pour cela que je vous demande de sonder les Saintes Écritures comme il nous est recommandé. Mais lorsque un homme possède une connaissance, et particulièrement lorsqu'il est un chrétien rempli de la connaissance des choses glorieuses se rattachant au royaume, alors là, il a très envie, et vous le comprendrez, il a très envie de partager ses trésors avec les autres, selon ses connaissances limitées, de les partager. Peut-être que l'autre a quelque chose en plus, va savoir. Alors dans ce cas, il faut l'accepter. Un homme que le Saint-Esprit a doué par la révélation ou par la méditation ou par l'instruction ou mieux encore par les trois réunis dans le baptême du Saint-Esprit et de feu, aura très envie, comme l'apôtre Paul, notez le chapitre 14, verset 19, d'enseigner aussi les autres un feu saint pour enseigner les choses précieuses qui lui ont été données par Christ, brûlera donc dans son cœur. La possession d'une parole de connaissance fait donc presque automatiquement un enseignant d'un homme ou d'une femme, et le don agit avec toute cette passion intense et cette spontanéité irrésistible que nous associons à juste titre à tous les dons de l'Esprit. Il doit enseigner et définir le don de la parole de connaissance comme étant un don d'enseignement dans l'Église et une définition pentecôtiste satisfaisante et logique et digne de sa nature et de son but. Il me semble donc que ce soit le moment de faire une pause et de signaler que le contexte ne nous laisse pas libre de folâtrer parmi tous les champs possibles de connaissances lorsque nous décrivons ce don de l'Esprit-Saint dans l'Église. Des illustrations soi-disant attirantes issues des Saintes Écritures ou de témoignages personnels n'ont en fait rien à voir. Elles ne font que, ou on peut dire, elles ne font aucunement une valeur absolue de preuve lorsque elles sont rattachées à une définition purement arbitraire de la parole de connaissance. Dans la parole de la plupart des exemples, eh bien, ces prétendues manifestations, parfois prétendues, c'est vrai, de la parole de connaissance, ont bien entendu un rapport parfaitement évident avec le don de la prophétie et l'exercice de celle-ci. Et nous devrions les laisser là où elles sont à juste titre. Je répète, dans la plupart des exemples, ces prétendues manifestations de la parole de connaissance ont un rapport parfaitement évident avec le don de la prophétie et de l'exercice de celle-ci. Et donc, nous devrions les laisser là où elles sont à juste titre. Prise par elle-même, et cela en tant que manifestation de la révélation gracieuse de Dieu, de toutes les sortes de connaissances aux hommes de choses grandes et petites, elle nous pousse tous à l'adoration. C'est ça qui est important. Mais elle manque parfois, leur but, si elles sont citées comme étant les si nombreux exemples que l'apôtre Paul avait à l'esprit lorsqu'il écrivait à Corinthe à propos du don de la parole de connaissance dans l'Église. Si nous voulons une illustration de ce don de l'Esprit-Saint à partir de la Sainte Bible, nous pouvons le trouver de manière prééminente dans tous les glorieux passages doctrinaux du Nouveau Testament, où toujours et encore les enseignants chrétiens déclarent triomphalement « Nous savons ». Nous savons. Troisièmement, ma troisième raison, c'est que la fonction hautement importante de l'enseignement dans l'Église, elle demande à être rattachée à certaines manifestations reconnues du Saint-Esprit. Il est intolérable qu'une telle fonction vitale au sein du corps de Christ puisse être considérée simplement et uniquement comme étant l'œuvre d'une aptitude purement naturelle, et cela aussi consacrée et aussi entraînée soit-elle, en particulier lorsque son type compensant du ministère par les prophètes, est le résultat si clair, tellement clair, d'un don de Pentecôte. Notez par exemple les prophètes et les docteurs à Antioche, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1, Donc un tel tort peut bien entendu résulter ici en erreur et en méprise. Il y a en effet dans l'Église, comme cela est ordonné par l'apôtre, un ministère formé humainement d'un enseignement systématique qui doit être transmis de génération en génération. Par exemple, « Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Je répète, il est dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2, « Est-ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce ministère permanent et important trouve son plus grand triomphe chaque fois qu'il est inspiré par un don de Pentecôte plus direct. Alors, bien que les vérités soient les mêmes, et même que l'orateur soit le même, il y aura quelque chose de brûlant et de rayonnant qui n'est rien d'autre que la parole de connaissance. Cette parole de connaissance qui est manifestée, et cela tout à nouveau, par l'onction du Consolateur. Oui, le Consolateur, le Paraclète, le Saint-Esprit, l'orateur et les auditeurs sont donc tous absolument conscients d'une puissance de Pentecôte qui accompagne la doctrine. Une puissance de Pentecôte qui accompagne la doctrine. Et c'est par de tels moyens que l'Église de toutes les générations entend une fois de plus la voix même de son Seigneur bien-aimé et qu'elle est enseignée par lui lorsque la vérité est en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 21, notez cette indication, Éphésiens chapitre 4, verset 21. Une manifestation de l'Esprit Saint est donnée, et cela par une parole de connaissance qui est inspirée et qui est bénie. Donc, ce sont ceux dont l'entendement a été éclairé afin qu'ils voient ces choses et qu'ils les connaissent à leur véritable valeur. Il y a des hommes qui enseignent dans les églises, mais qui ne sont pas des enseignants, qui ne sont pas des docteurs, tout comme il y a des hommes et des femmes qui prophétisent dans les églises, mais qui ne sont pas forcément des prophètes. Les fonctions données par Christ en Éphésiens chapitre 4, verset 11, renferment quelque chose donné directement par son Esprit Saint, et ces choses ne sont jamais obtenues par l'entraînement dans des écoles spéciaux. Ce sont vraiment des dons, tout simplement. Il manifeste le Saint-Esprit. Séparer un véritable enseignant de la parole de connaissance, c'est laisser la charge sans aucun don spirituel proportionné et également de laisser le don sans pas aucune expression dans la fonction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, ils sont un. Le Dieu qui a établi l'enseignement ou l'enseignant nomme un homme ou une femme dans l'Église, selon 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. Je répète, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, car ils sont un. Le Dieu qui a établi l'enseignant, que ce soit un homme ou une femme, dans l'Église, selon 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, eh bien là également, ils sont dotés de la parole de connaissance. Notez aussi le verset 8 de 1 Corinthiens, chapitre 12. On a dit chapitre 12, verset 28, et vous pouvez aussi noter le verset 8. Heureux sont donc, est-il dit, ceux qui reconnaissent cette relation divine. Voyez-vous, lorsque la définition de la parole de connaissance en tant que don d'enseignement, et cela au sein de l'Église, paraît si évidente, alors nous devrions nous arrêter et nous demander pourquoi certains se tourneraient vers d'autres explications. La réponse a été souvent donnée, c'est simplement que si nous considérons la parole de connaissance en tant que don d'enseignement, nous ne la rendons pas assez merveilleuse. Et cette position mérite donc d'être examinée. Nous sommes tous d'accord, et cela pour dire que tous les dons de l'Esprit-Saint sont fondamentalement surnaturels. Ils sont, en quelque sorte, le rayonnement, au sens littéral du terme, de l'Esprit-Saint en nous. Ils ont leur origine dans la grâce de Dieu, et ils sont en fait la grâce de Dieu. Je répète, ils ont leur origine dans la grâce de Dieu, et ils sont en fait la grâce de Dieu. Mais à partir de cette vérité fondamentale à propos des dons spirituels, il est trop souvent et trop facilement affirmé qu'il ne se manifeste que de manière anormale et spectaculaire à un haut degré. Il est exigé qu'ils équivaudront tous à des miracles au sens très cru du terme. Car définir la parole de connaissance en tant que don d'enseignement dans l'Église, cela ne satisfait pas ce désir naïf de quelque chose d'assez extraordinaire chez le spectateur le plus immature qui soit et qui manque en plus de discernement. Voyez-vous, je répète, définir la parole de connaissance en tant que don d'enseignement dans l'Église, cela ne satisfait pas ce désir naïf de quelque chose d'assez extraordinaire chez le spectateur le plus immature, qu'il soit et qui manque de discernement. Il veut quelque chose d'équivalent à cet égard aux langues, ou si vous voulez, à la guérison, ou encore l'élément surnaturel est frappant et beaucoup plus facile à reconnaître. car toute définition tirée par les cheveux de la parole de connaissance est acceptable pour une telle attitude d'esprit, si seulement elle est assez merveilleuse. Donc, la manière de corriger cette erreur, elle se trouvera dans une direction qui peut paraître surprenante à certains chercheurs de la vérité. C'est la récompense d'une compréhension prudente et une compréhension juste de la nature réelle du don des langues. Un autre élément du groupe des dons spirituels d'expression. La restauration très répandue et bénie du don des langues par le réveil de Pentecôte au cours des 40 ou plus encore, peut-être 55 années, les dernières années de ce que nous connaissons, fut le facteur principal pour revêtir tout le sujet des dons spirituels d'intérêt et de signification nouveau. Mais, pour tout cela, la nature réelle du don des langues est encore largement mal comprise. Notre but actuel est servi en répétant que parler en d'autres langues est évidemment surnaturel, bien entendu. Bien que moi, personnellement, pour le moment, je ne parle pas en langue, je sais que cela est nécessaire. Je ne suis pas un ignare total. Mais il y a des choses que nous ne comprenons pas toujours. Ne sommes-nous pas limités? En tout cas, moi, Dieu donne comme il veut et à qui il veut. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Cet aspect de la vérité lui donne une valeur unique en tant qu'évidence première du baptême dans le Saint-Esprit. Notez Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 46. La touche de surnaturel a, à juste titre, suffisamment captivé les foules qui ont partagé la bénédiction. Mais en comparaison rare sont les personnes qui ont compris la véritable nature de l'inspiration divine qui se tient derrière les langues. Pour de nombreuses personnes, ce fut une opération soi-disant mécanique de l'Esprit-Saint de Dieu par laquelle il a parlé par leur corde vocale tandis que leur propre personnalité a été en veilleuse. Il suffit d'une étude superficielle des Saintes Écritures pour corriger, croyez-moi, pour corriger ce point de vue erroné et parfois même dangereux. Car le jour de la Pentecôte, les disciples parlèrent en langue, c'est vrai, comme l'Esprit-Saint leur donnait de s'exprimer, Actes chapitre 2, verset 4. Dans les exemples suivants, en Actes chapitre 10 et Actes chapitre 19, ce furent d'autres hommes qui parlèrent en langue, bien que ce soit toujours parce que l'Esprit-Saint de Dieu était venu sur eux. Mais il n'est pas scripturaire de dire, écoutez bien, que le Saint-Esprit parle en langue. Lorsque nous nous tournons vers le passage intimement relaté, mais qui n'est pas tout à fait identique, du parler en langue en tant que don de l'Esprit-Saint dans l'Église, nous le trouvons déclaré dans un langage très clair qui dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Ce n'est certainement pas les membres d'une trinité bénie, ayant une conversation les uns avec les autres par un certain canal humain. C'est le propre esprit de l'homme parlant à Dieu. Saint Paul entreprend de déclarer ce fait en un langage trop clair pour permettre toute autre signification lorsqu'il dit au verset 14 « Car si je prie en langue, écoutez bien cela, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Son enseignement consécutif sur le bon usage du don des langues dans l'Église est entièrement fondé sur le fait que les hommes peuvent donc contrôler leur propre esprit et qu'ils devraient le faire. La vague d'émotions divines qui produisit la manifestation était vraiment surnaturelle, c'était la plénitude de l'Esprit Saint de Dieu dans les hommes, mais sous cette puissance inspiratrice, c'était l'esprit humain qui priait, qui chantait et qui rendait grâce dans une langue. Avoir une bonne théorie de l'inspiration est donc absolument essentiel pour une bonne compréhension des dons spirituels. L'application de tout ceci à la parole de connaissance devrait être très claire. L'inspiration a la source de tous les dons d'expression de l'Esprit Saint est identique, que ce soit la parole de sagesse, que ce soit la parole de connaissance, ou la prophétie, ou encore la diversité des langues, ou l'interprétation des langues, et cela ni plus ni moins. Mais l'élément spectaculaire et inhabituel en apparence, elle peut très bien être moindre dans certains cas plutôt que dans d'autres. Et ce fut précisément cela qui provoqua ces problèmes à Corinthe. Ces croyants, très fervents du reste, mais quand même un peu immature, voulait absolument placer les langues dans une catégorie beaucoup plus grande que celle de la prophétie, tout simplement parce que ce don leur paraissait beaucoup plus surnaturel. Notre cher mouvement de Pentecôte, il me semble, ferait bien d'y prêter attention. Tandis que l'apôtre Paul continue de les enseigner à propos des dons spirituels, il fait une distinction intéressante et très importante entre l'esprit et la compréhension de ces chrétiens remplis de l'Esprit Saint. Il s'y inclut lui-même et il utilise la première personne du singulier pour ce passage clé de son enseignement, faisant référence à mon esprit et à ma compréhension. Avez-vous entendu ? À mon esprit et à ma compréhension. il dit beaucoup plus explicitement que c'était son esprit qui instruirait aussi les autres. Donc, quand un docteur en théologie enseigne, c'est par son esprit qu'il peut aussi le faire. Versets 14 à 19. Versets 14 à 19. Et le même Esprit Saint inspirait à la fois l'émotion et l'intelligence dans la parole de connaissance. Nous avons une manifestation du Saint-Esprit par la compréhension, ou si vous voulez, la pensée ou l'intelligence. Ça, c'est la même chose. Donc, dans la parole de connaissance, nous avons une manifestation du Saint-Esprit par la compréhension ou par la pensée ou l'intelligence. Par l'intelligence du croyant qui, lui ou elle, est rempli de l'Esprit Saint, bien entendu. Ça, c'est l'inspiration sur cette partie de lui qui sait. Je sais. L'apôtre Paul pria afin que la même bénédiction soit accordée aux Éphésiens lorsque il demanda que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez et que vous puissiez dire « Je sais ». Éphésiens, chapitre 1, versets 17 et 18. Nous serons donc vraiment coupables de la même folie que les Corinthiens si nous refusons de reconnaître un don spirituel uniquement parce qu'il agit d'une manière dépouillée de toute émotion intense et parce qu'il se révèle plutôt sous des conditions plus normales et par le domaine des puissances mentales de compréhension qui nous ont été données par Dieu. Et nous serons également insensés si nous tentons d'entraîner la parole de connaissance vers des courants mystiques de révélations remarquables à propos des hommes et des choses, au lieu de lui accorder sa place véritable et honorable en tant que ministère, un ministère qui est oint par l'Esprit Saint, par lequel nous puissions espérer de instruire aussi les autres comme l'apôtre Paul. L'application pratique de tout ceci au réveil de Pentecôte ne doit pas paraître très importante au premier coup d'œil. Seul un sentiment croissant que c'est important m'a donc poussé à dire ces choses-là, alors que j'aurais bien entendu préféré de beaucoup de laisser de côté un sujet qui me semble et qui entraîne souvent la controverse. Je n'ai maintenant ni l'inclination ni le temps pour tout ce qui possède de peu d'intérêt théorique, mais ce sujet est pratique. Il y a donc peu de temps, un pasteur avait dit « Les gens de mon église sentent que le Saint-Esprit n'a pas parlé dans nos réunions tant que nous n'avons pas eu les langues et l'interprétation des langues. » Pourtant, chers amis, nous sentions tous dans cette réunion une grande onction sur le ministère de l'enseignement et sur les messages qui suivaient en langue avec l'interprétation. Cela n'ajoutait absolument rien à ce qui avait déjà été dit en fait. Il semblait donc avoir moins d'illumination spirituelle que la doctrine que nous avions entendue avec beaucoup de profit et de joie. Moi, j'ai entendu et j'entends encore quand j'ai la possibilité d'écouter sur télévision allemande des prêches merveilleux par des hommes inspirés, vraiment, et pourtant il n'y a pas de parler en langue, mais il y a là des enseignements qui sont donnés. Vous pouvez consulter, si vous savez l'allemand, je crois qu'il y a en tout 3 ou 4 télévisions allemandes, donc post-allemand, qui donnent la journée entière des enseignements de la Sainte Bible, et où il n'est pas parlé en langue, mais où on peut vraiment dire, on peut obtenir beaucoup de bénédictions et s'enrichir énormément spirituellement. Il y a, c'est ce que disent certains pasteurs, des églises, des membres surtout d'églises évidemment, et ces membres pensent que s'il n'y a pas un parler en langue dans le moment qu'est donné le message du pasteur ou du révérend ou n'importe, eh bien, ils ont l'impression que Dieu ne bénit pas. C'est ridicule, une telle attitude. À ce genre de problème s'ajoute l'idée qu'une réunion de Pentecôte est en quelque sorte incomplète si quelque chose n'est pas donné en langue avec l'interprétation. Bien pire encore est le sentiment qu'une autorité beaucoup plus grande devrait être accordée aux langues que à l'enseignement, aussi faible soit l'un et aussi puissant soit l'autre. Et c'est ridicule cela. Vraiment, essayez de prier à ce sujet et le Seigneur vous éclairera. Grâce soit rendue à Dieu qu'un esprit spirituel sain chez les gens corrige habituellement tout ceci de manière rudimentaire en oubliant les langues et en se rappelant du serment. Il est important de ne pas faire comme certains qui ne prêtent aucune attention au serment ou à l'enseignement et qui veulent retenir que ce qui a été dit en langue. Ça, c'est vraiment absolument erroné. Et parfois, ceci est aux dépens d'un remords presque inutile. Tout ceci est donc corrigé et amené dans sa véritable perspective lorsque nous voyons que dans un ministère oint et qui est inspiré par l'un des enseignants de Christ qui est établi dans l'Église, nous avons écouté la sainte parole de connaissance en tant que don de l'Esprit-Saint. De nombreuses assemblées et d'églises demandent au Seigneur les dons les plus grands, alors qu'elles devraient le remercier du fait qu'il soit là les dons. ils attendent d'être reconnus. Dans le témoignage que nous avons en nous d'un cœur brûlant, tandis que Christ, au moyen de ses dons qu'il a établis dans son Église, nous parle une fois de plus par ce biais et ouvre notre compréhension afin que nous puissions comprendre les Saintes Écritures qui se trouvent donc à l'évidence indiscutables et que nous avons été bénis par rien de moins que le rayonnement de son esprit béni. Reconnaître la parole de connaissance comme étant un don de Pentecôte pour l'enseignement dans l'Église, ce n'est pas du tout de nous priver de quelque chose de surnaturel. Bien au contraire, c'est accroître de manière plus profitable et plus confortable notre appréhension des richesses et des merveilles de ces diverses opérations qui manifestent tout le même Esprit Saint. Cela, finalement, accorde une gloire beaucoup plus grande au Dieu qui est le dispensateur d'absolument tout. Gloire soit rendue à son saint nom. Chers amis, pour terminer, n'oublions jamais que le diable est un faussaire qui sait imiter les œuvres de Dieu. Et ça, vous pouvez me croire. Il est clair que nous devons nous montrer prudents par rapport à tout ceci. Le diable est un faussaire et il sait imiter les œuvres de Dieu, que vous le croyez ou pas. Nous avons besoin du don spirituel, du discernement, et nous devons également garder les yeux constamment fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Le diable ne peut avoir de prise lorsque nos yeux sont fermement rivés sur le Sauveur. Si dans ce puissant mouvement de l'Esprit Saint, nous recherchons davantage le Christ, son amour et sa puissance, sa joie, sa guérison, etc., c'est selon cette mesure que nous recevrons. Mais si nous le quittons des yeux un seul instant et que nous voulons davantage d'émotions que des émotions pour l'amour de l'émotion, davantage de manifestations pour que les autres nous portent plus d'attention, alors nous nous trouvons en terrain découvert devant le diable. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devions fermer la porte à l'Esprit Saint de peur des dangers si nous ne prenons pas garde. C'est vrai, pour beaucoup de choses, car beaucoup d'entre nous prennent deux cachets de paracétamol ou d'aspirine pour se débarrasser d'un mal de tête. Et nous savons, grâce à l'avertissement inscrit sur le flacon ou sur le paquet, qu'il est extrêmement dangereux de dépasser les doses prescrites. Cela ne sert pas, absolument pas, à nous empêcher d'utiliser des médicaments, mais cela nous empêche de les utiliser à tort et à travers. Le diable aimerait nous effrayer avec des histoires horribles, mais Dieu nous fait garder les yeux sur lui. Vous voyez, aussi longtemps que le diable nous accapare avec des choses négatives, il détourne nos yeux de notre Père Céleste. Ceci est une mise en garde que nous devons vraiment écouter. La jalousie est un danger réel lorsque l'Esprit Saint est en action. Nous regardons d'autres églises, la vie d'autres chrétiens et nous voulons savoir pourquoi ce qui leur arrive ne nous arrive pas à nous. Il est très humain de décider qu'une chose qui ne nous arrive pas à nous aussi, nous pensons, par exemple, que ce n'est pas valable. Eh bien non. J'ai entendu de nombreux témoignages de personnes qui étaient extrêmement sceptiques au sujet de l'action du Saint-Esprit avant que l'Esprit Saint ne les touche. Tout a été ensuite, bien entendu, est devenu différent. Et il nous faut nous rappeler que le Seigneur s'occupera, il s'occupera de chacun d'entre nous en fonction de nos besoins. Certains pleureront, d'autres riront, ou trembleront, ou même tomberont, d'autres encore resteront simplement debout, sachant que Dieu est Dieu. Vers la fin de l'évangile de Saint Jean, l'apôtre Pierre demande à Jésus ce qui va arriver à Saint Jean. Et le Seigneur répond que cela ne regarde pas l'apôtre Pierre. L'important est qu'il suive le Seigneur. Et plus important que les manifestations de l'œuvre du Saint-Esprit et le fruit de ce travail dans notre vie, fruit qui reflète l'amour et la vie de Jésus-Christ, la soif de ceux qui ont été profondément touchés par l'action de l'Esprit Saint et de connaître Jésus davantage. Je répète, la soif de ceux qui ont été profondément touchés par l'action de l'Esprit Saint, c'est de connaître Jésus davantage et de le servir davantage, de lire la Sainte Bible encore davantage, de prier encore davantage et de partager davantage avec d'autres leur foi en Jésus-Christ, de lui obéir davantage, de parvenir à une unité plus réelle et véritable avec leurs frères et sœurs en Christ. Ils veulent voir l'Église donner toute sa gloire à Dieu le Père. Or, le diable ne fait pas ce genre de choses. Les flots montent et ils provoquent un grand trouble dans la vie de beaucoup. Multitudes de vies sont changées par les torrents d'eau. Mais un flot bien plus puissant descendra sur ces terres et bientôt je répandrai l'eau de mon Esprit Saint, dit le Seigneur. Comme l'eau se répand dans les fondations et monte dans les maisons, de même j'entrerai dans la vie des hommes et des femmes en ces jours prochains. Je ne resterai pas caché et soumis dans les fondations de leur vie. Je me répandrai, dit le Seigneur, dans leur salon, dans chaque partie de leur vie. Le Seigneur dit, je tournerai leur cœur vers moi. Ils pleureront pour moi. Ils ouvriront les écluses et attendront le torrent de mon Esprit Saint. Ils pleureront à cause de leurs péchés, mais ils se réjouiront de leur salut. Le salut et l'Esprit Saint seront exercés ensemble, tout proche de l'enseignement humain. La vérité déferlera avant l'enseignement. L'enseignement fait exister la vérité. Les eaux montent, ainsi que les flots laissent une marque sur les murs des maisons dans lesquelles ils pénètrent. Et c'est ainsi que mon Esprit Saint laissera sa marque dans la vie de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant où il sera rentré, dit le Seigneur. Tout le monde saura, et personne ne reniera ce que j'ai fait dans leur vie à leur demande. Je submerge les nations de mon amour, dit le Seigneur. Préparez-vous à interpréter ma bénédiction pour les bénis. Veillez et soyez prêts à bondir dans l'action. Surveillez le signe du torrent et écoutez ma sainte parole. C'est ce que dit le Seigneur. Chers amis, voici donc des temps critiques, plus que jamais. Ouvrez la radio, la télévision, vous entendez des choses qu'on n'a jamais entendues il y a 20 ans. Nous sommes appelés à rechercher le cœur de Dieu d'une nouvelle manière pour suivre le chemin de Christ dans une obéissance renouvelée et pour être ouverts à l'Esprit Saint comme jamais nous ne l'avons été auparavant. Oui, voici une matière à réflexion. Si le Seigneur donnait à son peuple ce que les hommes appellent la réussite, c'est-à-dire la fortune et la prospérité individuelle, ce serait une preuve de l'échec total du plan de Dieu. Dieu réussit quand l'être humain échoue. Lisez la Sainte Bible et considérez la vie humaine. On dirait que Dieu la met en échec. Ce qui pour nous ressemble à un échec est une réussite pour le Seigneur, rappelez-vous. Le Tout-Puissant n'agit pas en fonction des desseins humains, ni selon le jugement des hommes. Chers amis, nous allons terminer par la prière et que le Seigneur puisse nous bénir tous. Richement. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous devrions fléchir les genoux devant toi, que le cœur plein d'une vive et sincère reconnaissance, nous devrions sentir toujours au fond de nos âmes les émotions de l'amour et de l'adoration qui te sont dues, mais nous venons à toi sans besoin véritable de rendre grâce, souvent avec froideur et souvent avec répugnance. Nous demandons le bonheur à toutes les choses du monde et nous oublions qu'il n'est qu'en toi, ô notre Père Céleste. En poursuivant 1000 chimères, en nous attachant étroitement à de vaines et funestes illusions, nous obéissons à l'un des instincts que toi-même as placé en nous, mais ainsi qu'à l'égard de tant d'autres de tes dons, nous méconnaissons l'usage que nous en devons faire. C'est toi, Seigneur, qui as mis dans nos âmes cette soif de bonheur que rien ne peut complètement apaiser ici-bas où tout est fragile et périssable. Et ce sentiment si impérieux dans tout cœur d'homme devait nous diriger vers toi, car toi seul es le bonheur. Mais déchu de l'innocence primitive, né dans la corruption, enclin au mal, nous n'élevons plus nos regards vers le ciel et nos âmes rampent sur la terre. Ô Dieu, n'as-tu mis en nous ces désirs si puissants que pour nous livrer au trouble, à l'agitation, à l'inexprimable souffrance? Non, 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 car tu es pour nous le plus tendre des pères, et dans ta miséricorde tu as préparé la source d'eau vive où doit s'étancher notre soif. Jésus-Christ, ton divin Fils, a dit lui-même: « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Jésus-Christ le Sauveur, le Rédempteur du monde, a souffert et est mort pour nous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui, qui viennent à lui pour avoir la vie et qui reçoivent de lui grâce sur grâce. Voilà la source du véritable bonheur, le sentiment de notre réconciliation avec toi, Seigneur, ainsi que l'assurance de notre salut et d'une éternité de paix. Ton amour pour nous et ton amour pour toi, eh bien, tels sont les éléments qui le composent. Et ce bonheur-là est d'une pureté inaltérable, dispose ainsi notre cœur à être plus satisfait de sa portion terrestre et le console des épreuves de cette vie rapide et stressante. Ô Dieu, accorde-nous à tous d'être véritablement heureux en toi, et pour cet effet, attire-nous de plus en plus au pied de la croix de ton Fils bien-aimé. Et nous disons tous Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, car il aime tous ceux qui un jour ont donné leur vie, ont compris qu'ils devaient demander pardon pour leurs péchés et accepter la main tendue que le Seigneur veut donner à tous ceux qui veulent saisir cette main aujourd'hui. À bientôt à nouveau, à demain matin, Dieu voulant, pour, je crois, l'étude numéro 9. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.